Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit avec ce soir Daniel Riello. Bonsoir Daniel.
Bonsoir les amis.
Thibaut Leplat, salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
Au programme de l'after ce soir, la première conférence de presse du président de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Ça dure une demi-heure environ. On va réécouter les extraits les plus savoureux qui en disent long sur son nouveau rôle au sein de l'équipe de France. Hein. L'homme ne chasse pas son naturel. On pouvait craindre qu'il ait dit son discours. Finalement, non. Intact. On va en parler pour nous appeler au 32-16 pour nous dire ce que vous avez pensé également de la première prise de parole du capitaine Mbappé. On parlera de l'adversaire des Bleus, les Pays-Bas demain. Yoann Crochet sera avec nous. 5 joueurs absents demain, c'est tombé il y a quelques heures. C'est pas un virus, apparemment, c'est une intoxication alimentaire. Un poulet au curry serait au cœur de
l'affaire.
De l'affaire.
Moi, je le fais très bien. Moi.
Hein, très bien.
C'est une de mes spécialités.
Pas le plus compliqué à faire, quand même.
Est-ce que je t'ai dit que c'était compliqué en
non, mais de te la raconter un peu parce que tu le fais bien. Alors,
après,
je pense que tout le monde peut faire un
plusieurs
curry.
D'épices, quoi,
je pense pas que tout le monde.
Ah oui.
C'est pas vrai. On croit toujours
de coco
que les choses sont faciles.
Poulet de coco ?
Non.
Mais... Ah ! Moi, je mets de l'huile de coco dedans.
Ah, il le fait à la crème fraîche.
Mais l'huile d'olive de Toscane,
comme ça.
Bon, bref. On débriefera également le match en cours entre l'Italie et l'Angleterre. Derrière, il y a eu un but à l'instant. Bonsoir Pierre Thévenet.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous. C'est l'Italie qui a réduit le score au retour des vestiaires. Enfin, la 56e minute, un but de Matteo Retegui pour sa première sélection. L'attaquant italo-argentin qui évolue au Tigre en Argentine. Les Italiens qui avaient été complètement dominés en première mi-temps. Grealish avait même eu la balle de 3-0 juste avant la fin de la première période. Mais voilà, les Italiens sont revenus. Ils ne sont plus menés que 2-1 alors qu'on joue la 59e minute de jeu. Et sur l'autre pelouse, le Portugal mène 3-0 face au Liechtenstein.
Ingrid Tegui, l'histoire. On lui a trouvé un arrière-grand-père italien. On l'a appelé, il est venu, il a marqué.
Ouais.
Oh. Oh, il y a beaucoup d'arrière-grand-pères italiens en Argentine.
Oui, la moitié du pays.
Il ne parle pas italien, il n'était jamais venu en Italie.
Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre ce choix. Mais bon, sur le but, en tout cas, pour parler foot, ouverture lumineuse, enfin passe lumineuse, décisive de Pellegrini.
Exactement.
Conseil, c'est une très 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 belle passe.
Et Pierre, le Portugal a marqué à nouveau face au Liechtenstein.
Ouais,
Liechtenstein.
Le Portugal mène 3-0. Ça y est, Cristiano Ronaldo a eu son but sur pénalty, son 119e en sélection. C'était Cancelo et Bernardo Silva qui sont les autres buteurs portugais.
L'after avec Daniel et Thibaut à 23h. Restez avec nous. L'affaire Amraoui Diallo, les derniers éléments avec Daniel. On a eu en main, tu as eu en main notamment, hein, le rapport d'enquête de 700 pages. C'est une encyclopédie. C'est édifiant, évidemment.
Ça faisait un petit moment qu'on
accablant, bien sûr. On en avait parlé.
Qu'il fallait en parler. Voilà, après avoir attendu pas mal de jours.
Ce soir, on y va.
On s'est dit que ce soir, on allait y aller, ouais.
On va parler notamment de César Mavacala, bien sûr, dont on vous a parlé hier, qui a été mise en examen dans l'affaire. On n'a pas eu le temps d'évoquer hier la Première Ligue, hein, qui va permettre aux joueurs de confession musulmane de faire une pause fraîcheur en plein match, en plein ramadan, pendant le ramadan. La Ligue 1 doit-elle s'en inspirer? Tiens, on en fera un petit débat également. Vous pouvez nous appeler au 32-16. Voilà, c'est parti pour l'after, messieurs. Et puis aussi, tout à l'heure, on aura Paulo Breitner avec nous, car en Allemagne, il se murmure très sérieusement que Julian Nagelsmann pourrait se faire virer. Voilà.
En cours
de saison, avant un quart de finale de Ligue des Champions, son remplaçant pourrait être également Thomas Tuchel. Ça nous intéresse particulièrement.
Ah, s'il se fait virer, son remplaçant ne peut être que Thomas Tuchel.
Ça élimine une hypothèse pour Paris.
Bien sûr.
Et ça
nous intéresse également.
Confirmer mon hypothèse.
Tout à fait. Bon, Polo nous en dira plus tout à l'heure dans l'after d'ici une grosse demi-heure. C'est parti pour l'équipe de France, la première conférence de presse du capitaine Mbappé. C'est vrai qu'on se demandait s'il allait changer un petit peu son mode de communication face au micro avec ce nouveau rôle qu'il implique, certes. On pouvait imaginer peut-être que Deschamps lui aurait dit avant la conférence de presse, voilà, Kylian, maintenant t'es capitaine. Il va falloir nuancer ton discours peut-être. Eh bien non, messieurs, on va l'écouter tout de suite. Kylian Mbappé, c'était à 17h30 tout à l'heure à Clairefontaine, devant un parterre de journalistes très fournis. Écoutez-le, la réponse à notre ami et confrère Jeff Perez. Sa réponse en dit long sur le comportement qu'il aura en tant que capitaine face aux médias.
Je voulais vous demander si maintenant que vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous comptez, vous aurez la même liberté de parole que celle qui a été la vôtre jusqu'à présent. Merci.
Et moi, je peux vous poser une question. Pourquoi voulez-vous que ça change ?
Parce que le rôle de capitaine, c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France.
Qui l'a dit ?
La tradition, depuis que l'équipe de France existe. Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes.
Oui, et comme j'ai dit avant, chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je suis pas comme Hugo, Hugo n'est pas comme moi, je suis pas comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent, donc je serai un capitaine encore différent.
Voilà. Une des réponses de Kylian Mbappé, qui j'adore, ne changera pas sa personnalité. J'adore, je suis tel que je suis, ne comptez pas sur moi pour nuancer mon discours.
J'adore cette réponse et sa première conférence de presse aujourd'hui m'a conforté dans l'idée que j'avais que c'était un bon choix. Je suis très heureux. Alors oui, il peut y avoir beaucoup de blagues autour de Mbappé, il va tout faire. Mbappé, il peut faire ministre de l'Intérieur, ministre du Travail, président, donnez-lui
voilà,
tous les...
Voilà, ministre du Travail, ouais,
donnez-lui tous les postes, il peut tout faire, il va se cramer tellement il veut faire de choses. Pour l'instant, il ne se crame pas. Pour l'instant, ce qu'il fait, il le fait bien. Et la façon, enfin, t'as vu l'aplomb qu'il a dans la réponse?
Bien sûr.
L'aplomb qu'il a?
Ouais, tout à
genre, je ne vais pas changer, Jean-François insiste.
Savoir retourner une question déjà.
Parce que diplomate, machin, est-ce il retourne rarement la question. Ouais, il est extraordinaire, c'est tout. Il faut, au bout d'un moment, je sais que dans
les sélectionneurs de l'équipe de France, Daniel, aujourd'hui, tu frémis pas un tout petit peu quand même. Et... quand tu vois ton capitaine qui dit je ne changerai pas.
Écoute, je sais que ce pays sombre de plus en plus et chaque jour un peu
moi,
plus.
Moi, ça me va, hein, pour nous, journalistes, et vous, téléspectateurs également. C'est magnifique.
Je sais que ce pays sombre dans la tyrannie de la médiocrité jour après jour. Moi, j'aime les gens qui essayent de viser
l'excellence.
Haut.
L'excellence.
J'aime l'excellence. Je ne suis pas contre l'élitisme, je ne suis pas contre les élites, tant qu'elles se comportent bien, qu'elles ne volent pas, qu'elles ne sont pas hors la loi. Mbappé est au-dessus de la moyenne. Il s'extrait de la masse, il est plus intelligent, il est plus fort sur le terrain. Et je n'ai aucun problème avec ça, qu'il ait tous les honneurs et qu'on répète à longueur de journée.
Non, mais Daniel, tu as raison, mais là, c'est ton regard de journaliste également.
Ça ne m'emmerde pas,
journaliste.
Une seconde. Ça ne m'emmerde pas.
La question, c'est quand tu es sélectionneur, est-ce que tu dis...
Après, mais je n'ai pas de jalousie. Ta question, en fait... elle équivaut à me demander si je suis sélectionneur, est-ce que j'ai peur qu'il me fasse de l'ombre?
Ça, c'est bien moi, Daniel.
C'est pas de l'ombre, c'est pas ce que je te dis, justement.
C'est quoi alors?
L'histoire un peu plus chaud dans l'actualité de l'équipe de France, peut-être, en compétition européenne ou mondiale, par exemple. Un garçon aussi brut de décoffrage,
alors, est-ce que tu
aussi
as,
spontané et direct.
Tu as un
Deschamps
exemple.
A adoré Lloris pendant 12 ans,
alors,
il a servi de l'ombre.
Est-ce que tu as un exemple dans la vie politique, dans la vie du sport, de tout ce que tu veux, où tu t'en sors mieux en maniant la langue de bois et en pratiquant cette espèce de sacro-sainte communication sur laquelle je chie à longueur de temps, plutôt que la sincérité?
Je décide, il exécute. Voilà un exemple. C'est Chirac avec
c'est
Sarkozy.
Bien, c'est avec Sarkozy.
Effectivement, et peut-être qu'à un moment,
moi,
Deschamps
carte,
va rappeler
la
l'essentiel.
Carte, c'est la sincérité. Arrêtez de jouer les communicants. C'est terminé cette époque de la communication. C'est terminé, machin, là, ton idole, là, Jacques Séguéla.
Jean-Luc Mélenchon.
C'est fini.
Ton idole de
c'est
quoi
fini. Ben si, c'est la grande époque du gauchisme.
Grand ami de François, enfin, il est basculé plusieurs fois.
Du gauchisme et du caviar.
Triomphant. Terminé, stop, un mec est sincère, laissez-le parler, on s'en fout. Il se cramera s'il veut, il fera des erreurs de com', parce que Lloris n'a pas fait des erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'a rien fait, Lloris, pendant 12 ans.
Bon, ça va avoir des conséquences politiques, Daniel, ça va inévitablement avoir des conséquences politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire ça va avoir des conséquences sur les autres, ça va avoir des conséquences sur les rapports de pouvoir entre chacun. Si Mbappé, et je le trouve comme toi brillant dans cette conférence de presse, brillant pas parce qu'il fait de la com, précisément il fait pas de com, il dit ce qu'il pense, il dit pas tout ce qu'il pense, mais ceux qui pensent, ce qu'il dit, il le pense. Donc ça c'est déjà assez rare. Il y en a quelques-uns et il y a une vague, hein, comme ça. La communication des entraîneurs, on en parle souvent, des nouveaux entraîneurs changent. Francaise, Régis Lebris, une amitié à Julien Cazard en même temps, qui va encore parler de Lebris. Aise, Cazard, mais Guardiola, t'as dans le football une nouvelle génération qui vient avec, qui casse un peu les codes du secret tel qu'on entretenait dans les conférences de presse jusqu'à présent. Et là, ce qui est plus frappant, moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est l'effet de contraste entre Mbappé et deux minutes après, Deschamps qui débarque.
Justement, on va écouter Mbappé encore une fois sur la question que tout le monde attendait. Est-ce qu'il a parlé à Antoine Griezmann, l'autre candidat au capitaine en équipe de France? Écoutez sa réponse et après on écoutera dans la foulée le sélectionneur.
Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation, il était déjà là. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte s'il a quelque chose à dire devant le groupe. Même moi, je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça.
Écoutez maintenant Didier Deschamps, justement, à la même question, la différence de tonalité dans la réponse.
Je peux vous assurer que Antoine, depuis lundi... Il est très souriant et on a fêté son anniversaire. Qu'il ait eu la déception sur le moment, elle est légitime et pour tout le monde. Mais ça s'est arrêté là et il est rayonnant, resplendissant, que ça soit à travers les séances, dans la vie de groupe. Donc il n'y a pas le moindre souci là-dessus, quoi.
Mbappé est en train de ringardiser Deschamps.
Bah,
il y a de ça un peu. Quand même. Bon, après, le rôle est différent. Alors,
Deschamps a vraiment besoin de personne pour se ringardiser.
Ouais, pardon, ça va avoir des effets inévitables sur la répartition du pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kylian va être la voix qu'on va attendre, parce que c'est la voix qui dit le vrai, tous les autres vont prendre son ombre. Donc t'as le choix. Soit tu suis un peu dans la trajectoire, soit tu t'y opposes, tu es inaudible et tu sautes. Donc ça va avoir des conséquences. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que fait Mbappé là, c'est que effectivement il est sincère, c'est que il parle à notre intelligence en fait. Il parle au lieu d'essayer de se cacher derrière des formules, à dire tout et son contraire comme Deschamps, à dire ah mais non mais on va pas rentrer dans les détails, il veut rien dire, il veut cacher. La conférence de presse pour lui c'est un exercice dans lequel il faut sauter les obstacles, éviter absolument de dire quelque chose. Là au moins il dit quelque chose et il nous laisse le choix, il nous laisse l'opportunité de pas être d'accord avec lui, mais au moins il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, le secret, c'est pas évidemment de tout déballer en conférence de presse. C'est pas forcément ce qu'on lui demande. Et c'est normal qu'un capitaine ne puisse pas ébruiter tout ce qui se passe dans le vestiaire. En revanche, ce qu'il dit, il le pense vraiment. Et ça, c'est, à mon avis, le rôle essentiel. Et c'est le point essentiel. Et qui fait que la conférence de presse va, j'espère, redevenir à un moment pédagogique. Où il va expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe.
C'est terrible. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Mbappé viendra en conférence de presse, on n'aura même plus envie d'avoir Deschamps derrière.
Ben oui, évidemment.
Pourquoi faire venir Deschamps? Non, c'est ouais. Bon, les gars.
Surtout pour se ridiculiser.
Si l'heure arrive,
lui va s'en rendre compte qu'on le ridiculise. Que ça le ridiculise.
Je sais pas. Bah non, lui, il a accepté de projeter dans la lumière qu'il y a Mbappé aussi, certainement.
N'oublie pas que le choix de Mbappé était déjà politique. Donc, il va assumer jusqu'au bout.
Je pense aussi.
Ben oui.
Bon, on fait une pause, les gars, alors que nos confrères allemands de Bild annoncent que c'est terminé, effectivement, pour Julian Nagelsmann à la tête du FC Bayern.
Ça,
Polo arrive dans un instant.
Le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Toujours en course pour le titre en Allemagne. Limoges, son entraîneur, et le PSG, toujours Galtier. Ça, c'est quand même incroyable.
On en parle dans quelques secondes avec Polo, bien sûr, c'est l'actu du soir. Il y a un but encore de Ronaldo, mon cher Piatt Evenet.
Et oui, le doublé pour Ronaldo sur coup franc direct, cette fois-ci après un pénalty. Il a envoyé une belle mine en lucarne à l'entrée de la surface de réparation. Le gardien s'est un petit peu troué également, ça fait 4-0 pour le Portugal à la 69e minute, alors que l'Angleterre mène toujours 2-1 à Naples face à l'Italie, 71e minute de jeu.
Le Portugal, donc il mène face au Liechtenstein et l'Angleterre face à l'Italie. On fera le débrief de ce match tout à l'heure avec Julien Laurence. Et Johan Crochet, vous écoutez RMC, c'est l'after, il est 22h16 avec Thibaut Leplat, Daniel Riolo, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot,
Nicolas Jamin.
L'afterfoot avec Thibaut Leplat, Daniel Riolo sur RMC, 22h18, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Pour terminer les gars, sur la conférence de presse de Kylian Mbappé, il savait qu'il allait être interrogé sur Noël Le Graët, il l'a été. Écoutez sa réponse aussi, pleine d'aplomb. Kylian Mbappé.
Que mes paroles font grand bruit, je pense que oui, je le sais. Et c'est aussi pour ça que je me suis exprimé. Après, qu'est-ce que je pense en tant que capitaine? Je pense rien. Je pense que, voilà, il a démissionné. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas fait que des choses négatives. Mais maintenant, il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France et de la Fédération française de football.
Franchement, c'est incroyable, les gars. Il a 24 piges.
Et voilà.
Monsieur le Président, merci, au revoir.
On passe à autre chose.
Il n'est plus de l'actualité, les gars.
C'est un mot gentil, quand même.
Il parle un peu comme un PDG de start-up, tu vois. C'est à la fois un énorme aplomb, un discours un peu de vieux, parce qu'il a un peu un discours de vieux.
Exactement.
En fait. Il
tout
a
à fait.
Un discours de vieux, mais avec une forme un peu
rodé
jeune.
Rodé comme un vieux.
Voilà. Mais en même temps, avec une forme un peu plus jeune, un peu plus enthousiaste. Ce qui donne une espèce de mélange un peu étrange, parce qu'il est un peu étrange. Ça reste un personnage étrange. Et même, on peut l'admirer, on peut trouver ça formidable. Mais il est quand même un peu étrange. Il a 24 ans.
C'est la normalité. Dirais,
c'est la normalité par excellence. Il y a une espèce de d'étrangeté qui se dégage de lui, qui rend fascinant jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de l'état dans lequel était notre pays, cher Daniel? Et précisément, notre pays aussi a peut-être tendance à ne pas tellement accepter l'excellence quand elle se présente.
Ah bah, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est détesté.
C'est le problème de l'égalitarisme. Est-ce que combien de temps...
Il y a longtemps que dans la devise nationale, c'est égalité qui a gagné.
Avec une différence,
ça n'a rien à voir avec l'égalitarisme et l'égalité d'ailleurs.
C'est un dernier.
Ça n'a rien à voir. Mais Daniel fait souvent le mélange entre égalitarisme, communisme et l'égalité qui n'a rien à voir.
Je ne fais aucun mélange parce que justement, j'accepte un et je rejette l'autre.
L'égalitarisme, c'est mettre l'égalité avant la liberté.
Voilà.
Tout à fait. Donc, la question là sur Mbappé, c'est de se dire bon, ce type, il est fascinant, il est extraordinaire. Ce qui le différencie d'un homme politique standard ou d'un autre personnage qui peut être fascinant, c'est que lui, il a une légitimité sportive. Donc, on admet volontiers qu'effectivement, c'est plus facile d'évaluer le travail de Kylian Mbappé que d'un président, que d'un chef d'entreprise, etc. Donc, ce qui fait que dans le public, ça lui donne une légitimité plus forte tout de suite. Ce qu'on voit, il a failli gagner la Coupe du Monde tout seul. Donc, effectivement, l'égalitarisme, sur ce plan-là, ne prend pas le dessus. Mais jusqu'au jour où, et c'est toujours ça, et avec Mbappé, ce sera toujours ça le problème, jusqu'à ce que tant que ses performances se maintiennent à ce niveau. Le jour où ça redescend, cette arrogance, cet aplomb, comme tu dis,
de grande assurance, en fait.
Cette assurance, mais le jour où ça sera un peu moins bien, on parlera d'arrogance ou de mépris, etc.
Oui, bien sûr.
Donc, mais ça va venir. Quand ça va venir, l'avenir nous le dira.
Bon, il va peut-être froisser quelques partenaires en équipe de France.
C'est inévitable.
Aussi.
Je pense que c'est inévitable. Échange, il leur permet de gagner. Il n'y a pas de problème.
Je me dis que quand il vient avant Deschamps et il répond sur la vexation de Griezmann, en toute honnêteté, et c'est très bien. Bravo à lui.
Et surtout, on le croit là. On le croit.
Il n'y a pas plus que Griezmann se dise quand il va perdre son château.
Ah, si j'avais
pas nécessaire de le dire, quoi. Pas nécessaire de le dire que j'étais vexé. Voilà. Bref, peu importe.
Oui, ça va pas lui faire. Je pense que ça va pas faire plaisir à Griezmann. En même temps, ça permet d'établir un vrai lien avec le public. Là, Kylian, quand il parle pas aux journalistes. Il parle aux gens qui aiment l'équipe de France. Il parle aux gens qui sont plus grands au-delà de lui, au-delà de la salle. Deschamps, on le voit très bien dans cet extrait. Il ne parle qu'aux journalistes qu'il a en face de lui. Donc, il est là en train de se cacher. Il dit rien, sauf qu'il
contourne les journalistes.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste dans le cadre de ce cadre un peu imposé qu'est la conférence de presse. Pour Kylian, comme beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de communicants maintenant, il a compris que une interview, une conférence de presse, tu t'adresses plus à la personne qui est en face de toi. Tu t'adresses aux gens qui vont te lire, aux gens qui t'écoutent après, à ceux qui n'étaient pas présents, et tu parles au-delà de toi-même. Et ça, je trouve ça très intelligent de sa part et j'espère qu'il va maintenir cette ligne-là.
Antoine est avec nous, 32-16. Salut Antoine.
Salut messieurs.
Alors tu as suivi attentivement la conférence de presse de Kylian Mbappé, t'en as pensé quoi?
C'est difficile de ne pas être d'accord avec vous, c'est tout bonnement exceptionnel, notamment quand tu compares à ce qu'on a depuis des années. Voilà, j'adore à chaque fois la comparaison quand Daniel explique qu'en fait c'est pas aux journalistes que Deschamps et Lloris à l'époque parlaient, mais c'était à moi en fait, c'était aux supporters, à toute la France. Et moi, depuis des années, entendre Didier Deschamps en conférence de presse ouvrir les robinets d'eau tiède, nous balancer ses poncifs, j'ai juste l'impression qu'il me prend pour un idiot depuis des années, à travers vous en fait. Hein. Mm-hmm. Et donc là, entendre Mbappé pendant une quinzaine de minutes, mais c'est exceptionnel. Et c'est là où c'est tout le risque de l'avoir mis capitaine pour moi. Et c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne maintient pas. Est-ce que c'est pas purement politique de la part de Deschamps, comme on en parlait l'autre part? C'est Mbappé avec un tweet qui a dégagé le Gret. Il n'y a pas de président de la Fédé, et en mettant Mbappé capitaine, d'un côté, Deschamps, il se prend un allié, c'est exceptionnel. Deschamps, c'est vraiment, il est machiavélique, ce type, c'est exceptionnel. Je te dis pas que c'est la vérité, mais quand tu raisonnes comme ça, on a quand même Kylian Mbappé qui aujourd'hui nous dit que Griezmann était déçu et qu'il le comprenait complètement de pas avoir été choisi comme capitaine, pour avoir Didier Deschamps quelques minutes plus tard, qui nous dit que Antoine Griezmann est rayonnant depuis son arrivée à Clairefontaine lundi. C'est quand même exceptionnel. Il dit l'inverse de Kylian Mbappé un quart d'heure avant, mais tranquillement. C'est génial. Et donc Kylian Mbappé, par contre, il faut faire attention. Les conférences de presse avant chaque match, l'influx nerveux, les questions qui sont autres que le foot ou l'équipe de France, le PSG notamment, je ne sais pas si c'est autorisé par le le druide Raphaël Raymond qui fait le tri des questions. Mais il va falloir faire attention. Mmh. Ça va lui offrir beaucoup de responsabilités.
Il a dit, depuis des années. Il n'a pas d'obligation à venir avant chaque match de l'équipe de France en conférence de presse. Et ce ne sera pas le cas, à mon avis. Il ne sera pas là comme Lloris, systématiquement face à la presse.
Ouais, bon. Et il y a une chose intéressante, tu disais sur Griezmann, on n'est pas revenu au-delà de la forme, de la manière de l'hommage qu'il lui rend. C'est le fond. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose de très intelligent et c'est là où ça fonctionne. Vous savez, l'intelligence, ça fonctionne en fait. C'est juste qu'il faut lui donner un peu de chance, un peu lui donner sa chance. Et là, l'intelligence, c'est de dire quoi ? C'est pas de dire oui, Griezmann était un peu triste, mais bon, maintenant c'est moi. Non, il rend hommage à Griezmann en fait. Il rend hommage à Griezmann en disant voilà, il a plus de sélections que moi. On peut considérer que c'est un hommage paradoxal parce que c'est le nouveau roi qui rend hommage à son prédécesseur. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal. Mais malgré tout, sur la forme, on comprend ce qu'il dit. On comprend parfaitement la position de Griezmann. Il y a une forme d'empathie à l'égard de Griezmann. Et je trouve que Griezmann en sort même plutôt grandi de cette affaire parce que on se dit, effectivement, il constate comme nous qu'il y a un nouveau roi qui est incontournable, qui est Kylian Mbappé.
Et c'était une prise de pouvoir. Il avait beau répéter pendant ses conférences de presse que ce sera collégial, ouvert, tout le monde pourrait parler.
C'est comme les gouvernements d'ouverture.
C'est tout à fait ça. Mais ça reste lui le patron. Voilà. C'est ce qu'on a compris et il l'a dit de manière très, très intelligente et très subtile. Antoine, merci. Si tu veux rajouter quelque chose.
Non, mais juste, ne pas oublier quand même ce qui a pu faire pencher la balance, c'est qu'il y a 6 mois avant le mondial, on se pose encore la question de savoir si Antoine Griezmann avait un avenir en équipe de France.
Il y a eu cette période-là, c'est vrai. Il y a eu ces questions, c'est vrai.
Un Christopher Nkunku qui est blessé depuis mais qui était en feu là. On ne sait pas ce qui va devenir de Griezmann même dans les prochains matchs. Alors ça va peut-être pas aider, mais on le voit à minima rester jusqu'à l'Euro. Mmh. Mais c'est à prendre dans la balance. Pourquoi mettre Griezmann pour 15 mois capitaine alors que t'as Mbappé qui est prêt? Franchement, ça aurait pas été un mauvais choix, mais là, je pense qu'on est tous d'accord, après une masterclass comme il a fait cet après-midi, ça en devient indécent, en fait, t'as envie de lui dire.
T'as raison, c'est ça.
C'est presque gênant, mon grand, à 24 ans, d'être aussi fort, donc on va avoir 10 ans de lui encore comme ça en équipe de France minimum, c'est génial. L'avenir des Bleus est radieux. Il le sera encore plus le jour où on aura changé de sélectionneur, selon moi, mais bon, ça,
ça, ça va dépendre de Kylian, hein, maintenant. Ah oui, bien sûr. C'est à partir du moment où Deschamps va être ringardisé, où ça va jouer moche, et que Mbappé va en avoir marre, qu'on lui dise ça joue moche, vous n'êtes pas trop déçu, etc.
Thibaut, oui. Thibaut, excuse-moi, juste j'en parlais avec des amis. Ok, Zidane, pourquoi pas. Ben, à part sûr. Zidane, trouve-moi un Français, parce qu'on reste sur un sélectionneur français. Parce que depuis Kovacs, on est tous d'accord, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'étrangers. Qui d'autre que Zidane pourrait être sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui? Si vous avez un nom qui sort, de logique, ne sortez pas Wenger, Garcia.
Ah non, je suis d'accord, il n'y a pas d'autres noms, parce que dans les anciens, c'est souvent ça qu'on va chercher. Vieira est en situation d'échec, il a Crystal Palace, il a été également à Nice, il a un peu reculé dans l'idée qu'il pouvait occuper ce poste. Thierry Henry aurait pu être également un candidat. Il ne s'est pas réellement encore affirmé dans la fonction d'entraîneur. Il n'y a pas réellement.
Il n'y a personne de aussi légitime que Zidane maintenant.
Mais c'est pour ça que Zidane attendait le poste. Le problème, c'est que Zidane.
Et il va finir par prendre un club un jour.
Combien de temps il va l'attendre? À un moment, il va bien falloir qu'il aille bosser. Parce que même si ça devait être
il
au minimum.
Il a des bouches à l'heure, tu vas nous dire.
Même si c'était au minimum un euro raté et donc Deschamps qui part après un euro raté. Mais d'ici là, Zidane, il ne va pas rester si longtemps sans bosser quand même. Le problème, c'est où va aller Zidane.
Si Zidane n'est pas disponible et que Deschamps saute un jour,
connaissant Zidane,
avant la fin de son contrat, quelle est la solution?
Dans son contrat, il aura prévu une clause pour reprendre le banc de l'équipe de France. Bah, ça s'est fait.
Alors qu'il a
déjà vu.
Alors qu'il aille très vite au PSG. Alors. Et puis le libéreront si l'équipe de France n'a plus de sélectionneur. Parce que là, à un moment, on parle tout le temps de la Juve, mais Allegri a un contrat incroyable en béton armé. Ça coûtera une fortune. La Juve ne peut même pas le virer.
Il y a le Real peut-être, parce que Ancelotti, si Ancelotti ne gagne pas de titre.
Il ne va pas faire un énième comeback.
Comme Del Bosque, comme beaucoup.
Merci Antoine, on a fait le 32-16.
Salut les gars, bonne soirée.
Excellent soir à toi, tu reviens quand tu veux, bien sûr, dans un instant. Polo sera avec nous. Tiens, rapidement, la compo de l'équipe de France probable, c'est la même qu'on a donnée hier. Hein. Donc Colomoni, Mbappé, Coman devant et Koundé, latéral droit. Voilà. Il aime ça maintenant, Deschamps, son idée, il va la maintenir. Koundé sera latéral droit de l'équipe de France. Jusqu'à preuve du contraire. Reste avec nous, c'est l'After avec Thibaut Leplat et Daniel Riolo, RMC 22h29. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC 22h minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot sur RMC avec Thibaut Leplat et Daniel Riolo, 22h32. Tiens, ce soir dans l'after, on peut vous faire emporter des places pour assister au match France-Pays-Bas demain soir au Stade de France. C'est à 21h. Pour cela, il faut vous inscrire au 732-16, envoyez le mot Euro, E-U-R-O, au 732-16, et vous gagnerez ces deux places pour le match de demain soir, le premier post-Coupe du Monde. Polo Breitner est avec nous, salut Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Comment on dit breaking news en allemand mon cher Polo?
Bah breaking news.
D'accord, merci Polo.
c'est un mot, c'est un peu partout maintenant utilisé.
Tu as raison, en français, je ne sais même pas comment on dit.
Une info cassée.
Tu peux dire exclusif si tu veux.
L'info cassée. L'info cassée, mon cher Polo, et ça là, on ne s'y attendait pas, nous, en tout cas, pas actuellement. Julian Nagelsmann s'est fait virer de son poste d'entraîneur principal du Bayern Munich.
Alors, serait viré.
Serait.
Parce que rien n'a été officialisé du côté du Bayern Munich. C'est parti d'une rumeur et d'un tweet d'un Italien que vous connaissez bien.
Fabrizio Romano.
Ouais, exactement. Et ensuite, ça a monté en flèche en Allemagne. Alors moi, comme beaucoup de supporters bavarois, je suis allé voir sur les réseaux sociaux. Je suis très, très surpris et presque sous le choc sur ce qui vient de se passer. Je vais essayer juste de vous expliquer rapidement. Lorsque le Bayern a éliminé le PSG, c'était le ciel bleu, merveilleux, etc. C'est comme ça depuis le début de la saison. Une fois, il fait pas beau. Une fois, il fait bleu, etc. Puis il y a eu cette défaite à Leverkusen, qui était complexe. Il y aura beaucoup de choses à dire sur la rencontre, etc. Et là, on apprend, donc, il y a eu cette rumeur, donc ce tweet lancé, et en Allemagne, Kicker a commencé en disant qu'ils avaient en gros contacté Nagelsmann, et est-ce que Nagelsmann avait été au courant de cette rumeur comme quoi le Bayern Munich pourrait se séparer de lui? Il a dit oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de la part de la direction du Bayern? Non, pas encore. C'est ce qu'il avait répondu. Non, pas encore. Et ensuite, évidemment, d'autres médias qui sont toujours très bien informés en Allemagne, spécialisés sur le Bayern Munich, ont continué à dire que, en fait, c'est fait. Quand je dis c'est fait, c'est que c'est pas officialisé par le club et que le successeur de Julian Nagelsmann sera Thomas Tuchel. Bon. Et là, Kicker revient en disant, il manque la signature pour le moment, mais c'est fait.
Mais c'est quoi les raisons, Polo?
Ben justement, c'est ça qui est très 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 surprenant dans cette rapidité. Donc, on peut critiquer Julian Nagelsmann sur le jeu qu'il pratique en ce moment. Et en gros, même s'il remportait le titre 2023, ce ne serait pas un grand champion à l'image de ce qu'avait réussi Jupp Heynckes ou Guardiola par les années précédentes, voire le titre de 2020, le triplé de 2020 de Hansi Flick. Mais moi, ça fait 2-3 ans que je dis que le Super Bayern, j'en parle souvent le lundi avec Nico, n'est plus aussi flamboyant que celui qu'on a vu sur la dernière décennie. Les raisons, c'est quoi? Ben, ça peut être que le vestiaire. Et ce qui est paradoxal, c'est que Julian Nagelsmann avait, sur les dernières affaires au Bayern, avait gagné. Il s'était séparé de Lewandowski, il avait gagné son duel avec Manuel Neuer, il était renforcé, tout ça. Il avait nommé comme capitaine Kimmich, la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il était là pour faire une nouvelle épopée, une nouvelle ère du Bayern Munich sur la scène européenne et nationale. Donc tout était pour lui. Ce lundi, encore une fois, Herbert Heiner, le président de l'association dans Kicker, faisait une interview où il disait que Nagelsmann, c'était notre coach, c'est pour ça qu'on l'a pris pour plusieurs années avec un contrat jusqu'en 2026 parce qu'on prépare l'avenir, etc. On a besoin d'être créatif, on a besoin d'un coach comme lui, etc. Tu as des critiques évidemment sportives quand Salimitis, le directeur sportif, n'est pas content de la prestation des joueurs de Nagelsmann au Bayer Leverkusen, il le dit, mais Oliver Kahn toujours derrière Nagelsmann, les grands pontes, les éléphants du Bayern comme Lyonnais toujours derrière Nagelsmann, et là on apprend ça comme ça, encore une fois à valider cette information qui pourrait intervenir demain, et c'est vraiment un énorme choc. Donc quand on réfléchit d'où ça pourrait venir, un changement comme ça radical de la direction, ça ne peut venir évidemment que du vestiaire.
Il s'est forcément passé quelque chose.
Exactement.
Est-ce qu'il y a pas... donc... Moi je sais pas, je te pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une hypothèse, alors il y a l'hypothèse du vestiaire qui se retourne, mais il n'y aurait pas une hypothèse, je sais pas, une sorte d'insubordination ou une énorme engueulade avec Oliver Kahn et qui lui
tire sur le champ. C'est également aussi. Hein,
qui lui met une pression et lui dit... Est-ce que c'est pas un affaire personnelle?
Ce qui est sûr, c'est que les relations entre Salimitsic et Nagelsmann sont pas forcément les meilleures du monde, mais c'était la même chose à l'époque avec Hansi Flick, hein. Et à la rigueur, c'est pas le même boulot, et on le dit souvent en Allemagne. Un directeur sportif, il a pas à être copain avec un coach. Il y a des objectifs, il y en a un qui est là pour construire un effectif compétitif chaque saison, il y en a un qui est là pour gagner. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Maintenant, il peut y avoir évidemment une différence de vision. Mais si on doit reprocher quelque chose à Nagelsmann, c'est quoi? C'est qu'il a sans aucun doute l'un des effectifs les plus important d'Europe, y compris sur le banc. C'est assez. Moi, je connais pas beaucoup de coachs qui peuvent se dire mes titulaires, c'est Mané, je sais pas moi, Müller, Moussiala et Gnabry, et je les remplace par Coman, Leroy Sané, le jeune tel si on veut, et Choupo-Moting si je veux. C'est quand même assez impressionnant. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait rentrer les remplaçants? Et ces remplaçants, en fait, ne sont jamais au niveau. C'est-à-dire que la deuxième ligne n'arrive jamais à se mettre au niveau des premiers, comme s'ils faisaient la tronche. On sait que Leroy Sané n'est pas content, on sait même pas s'il va rester. Gnabry, il y a des rumeurs qui partent à la fin de la saison parce qu'on n'est pas comprendre sa performance. Regardez le cas Kingsley Coman, qui était pas du tout content de son temps de jeu depuis le début de saison et qui a été le grand gagnant des matchs retour, et il se retrouve titulaire, il dit plus rien, et donc c'est les autres qui se retrouvent sur le banc qui sont pas contents, etc. C'est il y a que ça, ou alors oui. Il y a une véritable engueulade qui s'est faite avec la direction du Bayern post défaite contre le Bayer Leverkusen, et peut-être aussi que le Bayern se dit mais finalement, avec le niveau de jeu qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas passer City et il nous faut un électrochoc. Et puis, il y a le cas.
Je rappelle Thomas que Thomas Tuchel, la dernière fois qu'il a pris un club, ouais, au cours de saison, il a été sacré champion d'Europe.
Ouais, mais c'est pas n'importe quoi. Parce que ce qui est sûr, c'est que Nagelsmann avait une pression extraordinaire au mois d'avril. Il y avait 8 matchs durant cette période, dont le match du 1er avril contre le Borussia Dortmund, qui va, de mon point de vue, décider du titre 2023. En gros, si le Bayern l'emporte, ils seront champions. S'ils font match nul, ils perdent, ça va être compliqué pour eux de remporter le titre 2023. Mais ce qui est extraordinaire, c'est si c'est Thomas Tuchel qui arrive. Parce que Thomas Tuchel, je rappelle que c'est pas un copain d'Oulionès, qui est toujours là, le vieil éléphant, il est toujours là en train de dire ce qu'il veut, etc. Donc Thomas Tuchel, on n'en voulait pas spécialement à l'époque. Lui, il ne voulait pas non plus spécialement. Bon, il a un caractère, hein, Thomas Tuchel. Il voulait pas spécialement venir au Bayern Munich s'il n'était pas adoubé, aimé, etc. Et il va rencontrer pour sa première rencontre le club qu'il a fait partir en 2017, où ça s'est très très mal fini à la fin. Donc Thomas Tuchel, il va vouloir se faire un plaisir d'écraser le Borussia Dortmund le 1er avril pour montrer, vous voyez qui je suis, parce que maintenant je suis là avec la Ligue des Champions que j'ai gagné avec Chelsea. Vous avez passé votre temps, vous, à me mépriser parce que je gagnais pas les titres, etc., alors que vous savez tous que je suis meilleur que Jürgen Klopp, etc. C'est ça qui se prépare derrière.
Mais c'est
d'une violence absolue.
Bildt l'annonce également, Kicker effectivement aussi. Ouais. C'est brutal, on s'y attendait pas forcément. Nagelsmann, bon, on parlera de son avenir plus tard, hein, évidemment, il y a plein de messages sur Direct Studio, et pourquoi pas à Paris, Nagelsmann, je le prends tout de suite.
Il n'y aura pas Tuchel à Paris. Voilà. Déjà, ça permet de...
Non, mais même Thomas Tuchel. Moi, on sait qu'apparemment, il y avait des rumeurs comme qu'il apprenait l'espagnol en ce moment pour la saison 2023-2024. Mais apparemment, il faudrait vérifier avec Julien Laurence. Il était très très proche de Tottenham, d'après ce que j'avais compris. C'est vraiment
fou. On en parlera avec Julien qui sera là dans quelques minutes. Et, voilà. Exactement. Merci Polo.
Merci à vous les amis.
Tu nous dis, hein, quand c'est officiel, hein, bien sûr. Merci à toi, très bonne soirée. Les gars, le direct, c'est également Italie-Angleterre justement. Mais le temps additionnel, Pierre Thévenet.
Ouais, il reste plus que 10 secondes à jouer pour l'instant. Les Anglais tiennent bon. Ils ont pourtant reçu un carton rouge par Luke Shaw à la 80e minute. Une deuxième mi-temps beaucoup plus hachée. Les Italiens sont revenus avec d'autres intentions. Ils sont beaucoup plus présents dans les duels. Peut-être un dernier ballon qui va être mis dans la surface par les Italiens. Et il y aura, non, rien du tout, ça va être terminé peut-être, oui c'est terminé, victoire de l'Angleterre, 2-1 face à l'Italie, des buts de Declan Rice et un pénalty d'Harry Kane qui devient d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, il dépasse Wayne Rooney, c'est Matteo Retegui qui avait réduit l'écart pour l'Italie en début de deuxième période, l'Angleterre s'impose 2-1.
Et le Portugal est en train de s'imposer 4-0 face au Liechtenstein avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Merci Pierre, excellente soirée à toi, nous reviendrons quelques secondes avec Thibaut et Daniel pour la suite de l'after. Julien Laurence arrive aussi, Yoann Crochet pour le débrief de la victoire anglaise à Naples de Buzyn. Reste avec nous sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Thibault Leplat, avec Daniel Riolo, RMC 22h42. Merci d'être avec nous. Tiens, j'accueille une autre drôle de dame, Yoann Crochet. Bonsoir Yoann.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
J'accueille également Julien Laurence qui est avec nous. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Dans un instant, on va débriefer avec toi la victoire anglaise historique en terre italienne de Buzyn. Mais d'abord, Yoann, un mot quand même sur les Pays-Bas que les Bleus vont affronter demain. On l'a appris tout à l'heure, 5 absents en plus dans la sélection de Ronald Koeman. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, selon les infos de deux Telegraph, quotidien très réputé évidemment aux Pays-Bas, petite intoxication alimentaire pour 5 joueurs. Apparemment, selon les détails, je peux même vous livrer le plat qui a posé problème. Un petit poulet au curry qui a visiblement posé un gros problème. Et donc Sven Botman, Cody Rakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman et Bart Verbruggen ont dû quitter le rassemblement. Et en plus, on a appris ce soir que Ryan Ravenberch et Kiel Scherpen, donc le Ravenberch c'est le milieu de terrain du Bayern, et Scherpen c'est un jeune gardien qui monte des U21, avait pas pu être là pour le dernier entraînement avant l'entraînement veille de match avant le match, donc on sait pas si ils seront en état vraiment de jouer demain, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'absents, hein, si vous ajoutez à ça Steven Bergwijn qui a déclaré forfait en début de rassemblement, enfin même avant même le début du rassemblement, Frenkie de Jong qui est pas là, qui a un gros problème aussi, Kop Meiners qui est blessé au milieu de terrain, donc il y a quand même beaucoup d'absents du côté de la nouvelle formation de Ronald Koeman.
Dis-moi un mot de Xavi Simons, c'est gamin qui est dans le groupe, bien sûr. Ouais. L'homme aux 16 buts cette saison avec le PSV. Lui passe également, il a une chance de débuter ou pas?
Bah, il a une chance parce que finalement l'absence de Cody Rakpo va rabattre pas mal les cartes quand vous regardez un petit peu la composition du secteur offensif qui est le vrai gros chantier de Ronald Koeman dans les mois à venir, au poste d'avant-centre ça devrait se jouer sans doute entre Memphis Depay et Wout Weghorst, ça dépendra vraiment clairement de l'option de jeu là clairement parce qu'on a affaire à deux prototypes d'avant-centre totalement différents dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1 modulable on va dire de Ronald Koeman. Et sur les côtés, je pense que dans les mois à venir, on verra beaucoup Bergwijn et Rakpo. Et au final, les deux ne sont pas là. Donc, il y aura peut-être du Daniel Malen, il y aura peut-être du Bergeuys de l'Ajax.
Il y a encore une équipe qui tient la route quand même, malgré tout ça.
Ouais, moi je trouve qu'il y a encore pas mal de bons joueurs. Alors évidemment offensivement quand tu perds ton meilleur élément, parce que je considère que Koeman doit aujourd'hui construire les Pays-Bas autour de Cody Rakpo et non plus autour de Memphis Depay. C'est clair que c'est une absence qui est très importante. Bergwijn aussi, même s'il fait pas une très bonne saison à l'Ajax, mais il y a encore un réservoir intéressant. C'est plus des joueurs aussi expérimentés que ceux qui forcément ne seront pas là, mais attention, il y a encore du monde hein, dans tout toutes les lignes de jeu d'ailleurs, hein, parce que même si par exemple Matthijs de Ligt part aujourd'hui et Sven Botman, vous avez encore Ake, Timber, Van Dijk, De Vrij en défense centrale, donc il y a encore pas mal de monde, donc ça sera pas la meilleure équipe des Pays-Bas, parce que je pense selon mes petits calculs en gros qu'il y a 5 titulaires qui seront pas là demain, qui seront je pense dans le 11 titulaire dirons-nous des prochains mois de Ronald Koeman, mais il y a encore une équipe compétitive. Oui.
Ça va être plus sympa les Pays-Bas de Koeman que de Van Raal ou pas, a priori?
Alors,
c'était bien ennuyé pendant la Coupe du Monde avec les...
Ouais. Attention à Koeman, hein. C'est pas non plus la
non,
grande folie.
Alors,
hein.
Il a une réputation sur ses passages en Liga notamment qui est pas très bonne, ou même à Everton, si je me trompe pas, mon cher Julien, où ça avait été assez catastrophique, je crois. Mais par contre, moi, avec les Pays-Bas, je vous dis sincèrement, sur les dernières années, c'est l'équipe... Enfin, c'est le sélectionneur qui a fait le mieux jouer les Pays-Bas. Moi, j'ai le souvenir, et Polo pourrait témoigner, d'un 4-2 en Allemagne où c'était vraiment un super match. J'ai le souvenir d'une victoire contre l'Angleterre 3-1 où c'était un vrai bon match. De la victoire, souvenez-vous, contre l'équipe de France 2-0, peu de temps après le Mondial 2018 où ils avaient les Bleus.
Ça a permis de partir au Barça ensuite. Justement.
Exactement, et où les Pays-Bas, je me rappelle plus exactement, mais ils avaient quasiment 70% de possession, ils avaient 17 tirs. C'était un massacre ce match-là. Et très sincèrement, moi, je me souviens de la liaison entre Wijnaldum en espèce de 10 avancés et Memphis Depay en faux neuf, les deux s'entendaient à merveille entre projection, décrochage. C'était franchement très beau à voir. Donc, sur le papier et en me souvenant de ce qu'on a vu du Ronald Koeman à la tête de la sélection, j'imagine que oui. Maintenant, je peux pas le certifier non plus, tout en sachant que, honnêtement, ce qu'on a vu des Pays-Bas de Van Gaal à la Coupe du Monde, on est proche du niveau zéro d'esthétisme et de spectacle.
On en reparlera demain soir, bien sûr, après le France-Pays-Bas au Stade de France. Donc, victoire anglaise, mon cher Julien, en terre napolitaine, 2-1, Declan Rice, Harry Kane pour les Anglais, Retegui, on va en parler dans un instant, bien sûr, l'Italo-Argentin désormais, qui avait réduit l'écart. Ton regard sur ce match, mon cher Julien, t'as aimé ce que le Ripple anglais a proposé ce soir?
Tout à fait. Alors déjà, victoire historique, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction. Première en Italie depuis 1961, si je me trompe pas.
C'est ça.
Et soirée historique pour Harry Kane, bien sûr, qui est devenu ce soir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, qui a dépassé Wayne Rooney donc avec ce penalty. 54 buts en 81 sélections. C'est beau, ça aurait pu être ce 54e but-là, le pénalty contre l'équipe de France à la Coupe du Monde. C'était pas là, c'était ce soir. Les Anglais ont parlé un peu de rédemption, même si tu peux pas vraiment comparer le match de ce soir et un quart de finale de Coupe du Monde.
Ah, ça non.
Mais bravo à Harry Kane. Il y a des choses qui m'ont plu, Nico, surtout en première période, enfin.
Ouais, d'ailleurs, oui, il y a pas une deuxième période pour les Anglais.
Ah bah, deuxième période, c'est facile, Daniel, ils ont aucun tir. Ils ont 30% de possession de balle en seconde période. Ils ont arrêté de jouer. Ils n'ont pas une seule occasion. Ils ont subi, ils ont souffert, ils ont reculé. Au final, ils s'en sortent. Ils gagnent 2-1 très bien. Mais cette seconde période, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Elle est laide. Elle est affreuse. Je ne comprends pas comment une équipe pareille, qui a quand même plus ou moins le contrôle du match à la pause, parce que, d'accord, ils marchent sur deux coups de pied arrêtés.
Il y a une balle énorme.
Oui, voilà. C'est le seul. Alors dans mes points négatifs, il marque sur deux coups de pied arrêtés, donc deux corners, enfin un corner et un corner qui ensuite donne le penalty. Dans le jeu, il n'y a pas vraiment offensivement avec le ballon, il n'y a rien d'extraordinaire à part cette occasion que Grealish rate, où c'est vrai que Saka et Kane jouent très bien le coup, mais sinon on n'a rien vu dans le jeu vers l'avant, en tout cas dans la circulation de balle vers l'avant, dans le mouvement qu'on aurait pu voir. Et encore une fois, pour moi, le Sylvain Ripoll anglais a fait n'importe quoi dans la composition d'équipe. Tu peux pas mettre Calvin Phillips, qui joue jamais, il joue jamais, le gars. Qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe là dans un match pareil? Je comprends rien. Et forcément c'est une influence négative dans cette équipe là parce que même lui c'est compliqué. À un moment, en première période, Bellingham récupère le ballon à 25 mètres du but de Donnarumma. Le ballon arrive sur Calvin Phillips. Tout ce qu'il a à faire, c'est à la glisser à Kane, qui est du bon côté du défenseur, qui a le but face à lui, et à la place de ça, il essaie de faire une frappe croisée qui est non cadrée, et même Kane l'insulte parce que il est, enfin voilà, c'est normal, il joue jamais, donc en club. Donc il peut pas être au niveau pour un match pareil. Mais il y a quand même des choses positives avec les deux buts qu'ils ont marqués, bien sûr. J'ai trouvé qu'en première période, j'ai un Declan Rice qui a été très bon, j'ai trouvé que défensivement c'était plutôt solide. Et après, Harry Maguire offre une grosse occasion à l'Italie sur sa mauvaise relance qui amène le but de Retegui, bien sûr. Et encore une fois, qu'est-ce que Harry Maguire fait dans cette équipe-là, vu que lui aussi ne joue jamais? Je comprends pas non plus, mais c'est une victoire qui sera potentiellement très importante.
C'est quand même incroyable de faire effectivement jouer des gens qui ne jouent pas.
C'est incroyable, je comprends pas.
Bon, on a eu ça en équipe de France.
Harry Maguire, il a fait toute la Coupe du Monde aussi avec Southgate. Hein, il a enchaîné les matchs.
Ouais, mais c'est pareil.
Plutôt pas mal d'ailleurs sur le mondial.
Ouais, oui, pas mal. Après, contre les États-Unis, le pays de Galles, contre l'Iran. Après, voilà, quand le niveau s'est élevé,
il continue à ne pas jouer. Au bout d'un moment, c'est pas possible quand même.
Bon, c'est pas comme si c'était Beckenbauer.
La sélection, c'est une sorte de récompense. Soit c'est des mecs qui sont bons toute l'année en championnat, qui ensuite se retrouvent en équipe nationale. Là, tu peux pas faire jouer des mecs qui ne jouent pas quand même. Ça a pas de sens.
Là, qui joue pas dans la mesure où, tu vois, on a eu le cas Griezmann. Qui joue pas à un moment dans son club quand il y a des références de performance de référence. Le problème de Maguire, c'est qu'il a jamais vraiment été, tu vois.
C'est pas vraiment pareil.
Ouais, bon. Cette saison, ouais, pas du tout.
L'Italie, mon cher Johan, a bénéficié effectivement d'une Angleterre qui n'a pas appuyé en deuxième période.
Ils ont le droit aussi eux d'être meilleurs et de faire une grosse
mais c'est ça en fait
période,
c'est toujours c'est pareil sur
arrêter de jouer aussi Daniel quand même.
Ouais. Oui, mais est-ce que l'Angleterre arrête totalement de jouer ou est-ce que c'est aussi l'Italie qui hausse le niveau de jeu et qui gêne l'Angleterre?
Je comprends pas pourquoi c'est des vases communicants,
c'est les deux.
Tu enfin je sais pas, tu t'es mauvais dans le premier set, t'as le droit d'être meilleur dans le deuxième, ça veut dire quoi ça?
Tu mets 2-0 à la mi-temps à domicile, tu vois, bon, tu reviens, tu fais une petite dragée,
il y a peut-être un coup de fouet, quelque chose, tu te remets à jouer là où t'étais timoré, le visage de l'équipe change. Non, c'est pas comme ça. C'est pas l'Angleterre qui arrête de jouer. C'est pas l'Angleterre qui rate sa deuxième période. C'est l'Italie qui réussit sa deuxième période.
Alors dis-moi, Johan.
Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Roberto Mancini à la fin du match en disant le match nul aurait été assez équitable finalement parce que chacun a sa mi-temps. Même si moi j'ai bien aimé les 10 premières minutes de l'Italien. Ça commençait à envoyer du jeu avec un Spinazzola là sur le côté qui était vraiment bien libéré, en bonne forme, qui commençait à créer des problèmes. J'ai vraiment bien aimé les 10 premières minutes et on sent que le but de Rice a un peu coupé les jambes et c'est toujours cette fameuse théorie des vases communicants. Le but a clairement coupé les jambes et d'ailleurs il s'est passé plus rien jusqu'à la mi-temps.
Ah oui, c'est comment tu supportes le
contre-coup moral
ou de marquer le premier but.
C'est ça
s'appelle la gestion d'un match, la gestion de l'émotion négative ou positive. Et cette équipe d'Italie qui n'est pas dans une grande confiance puisqu'elle a raté la Coupe du Monde, qui se cherche encore malgré son titre il y a deux ans.
Avec beaucoup d'absents. Il manquait, je vais pas tous les faire, mais quand vous regardez, quand il manque Bastoni, Di Marco, Immobile, Chiesa, ça fait beaucoup de monde. Et on revient à une discussion de lundi soir, Julien. L'Italie a clairement pas le réservoir des Anglais. Et quand Southgate se plaint par rapport à Mancini, tu te dis, il y a un problème d'évaluation de réservoir côté Southgate, parce que moi je trouve que c'est des bons joueurs de championnat, mais avec Acerbi Toloi en défense centrale, tu fais pas top 6 en Italie. C'est aussi simple que ça. Donc
pas de joueurs hors du commun dans cette équipe.
Et Bonucci qui manquait aussi, j'ai oublié. Donc je suis pas inquiet pour l'Italie. Je suis pas plus inquiet pour l'Italie que je ne le serais pour l'Angleterre en fait après ce match-là. Je trouve que il y a eu des très bonnes séquences, qu'on est en train de retrouver vraiment un Spinazzola très intéressant, que Gnonto a fait une bonne entrée, que Verratti a fait un très bon match. Par contre, moi, je trouve que le double pivot Jorginho-Verratti, je sais pas ce qu'en a pensé Julien, mais moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Ok, ça a été le premier étage de la fusée, Roberto Mancini, ça a gagné l'Euro, très bien. Mais ça manque trop de dynamisme, ça manque trop de couverture défensive, ça manque trop de projection, ça manque trop de puissance dans les duels, ça manque trop de changement de rythme. Pour moi, c'est ou l'un ou l'autre. Moi, j'ai une préférence claire pour Verratti, tout en sachant que peut-être il fera que 60.
Tu le vois jouer au PSG quand même?
Ouais, bien sûr.
Il est complètement cramé en vrai.
Ouais, mais je le vois jouer aussi en Italie et il est capitaine ce soir.
Soit Mancini est un. Ça lui va peut-être mieux.
Soit Roberto Mancini est un crétin fini, Daniel, et il le met capitaine alors qu'il est bidon et c'est un crétin. Mais je suis pas certain.
Il ne sera pas le seul à faire une énorme erreur. Tu sais très bien à quel point je rejoins Cassano sur ce qu'il a dit récemment. Et il y a de plus en plus de monde qui commence à dire ça maintenant. Ça viendra. Le problème, c'est que l'Italie va perdre un temps fou avant de se rendre compte que c'est pas lui qui faut faire jouer.
Moi, je pense
le PSG a perdu 5 ans déjà. Donc, tu sais, l'Italie, on peut en perdre également 5. Hein. Pas de problème.
Après, ils ont gagné un euro avec lui titulaire, donc ils sont pas tout perdus.
Ils ont gagné un euro avec lui, comme on le dit mille fois et comme à chaque fois, quand il est le 8e joueur le plus important de l'équipe.
Mais tu m'avais dit que l'Italie ne gagnerait jamais aucun titre avec Verratti titulaire. Au final,
c'est quand même incroyable quand même.
Mais voilà,
on y est.
C'est quand même fou.
On y est évidemment.
Johan,
à un moment donné, il a aucun impact. C'est un mec qui, en phase défensive, offensive, il fait rien. Arrêtez maintenant, c'est bon. La supercherie est tombée.
Ce soir, tu l'as vu sur le but. Verticale qui fait avec Pellegrini. Je suis désolé.
Mais tu retiens la passe de Pellegrini ou la passe qui est une passe de base et encore heureux qu'il sait faire une passe.
Non, c'est pas de passe de base. Donc moi je retiens les deux parce qu'une action c'est pas juste une passe avant un tir.
Mais ça va, mais même toi tu l'as fait, ça passe.
Ah ça je suis pas sûr.
En revanche celle de Pellegrini, je suis pas sûr que tout le monde la fasse.
Ah ça je suis bien d'accord.
Voilà.
Mais bref, tout ça pour dire que pour moi le double playmaker pour moi il faut arrêter et que c'est ou l'un ou l'autre et moi je pense que c'est Verratti et
Jorginho, il est titulaire à Arsenal.
Il lâche pas.
Non, il a joué pas mal pour l'instant, mais c'est parti le titulaire.
On sait bien qu'il a beaucoup de mal en plus depuis sa crise. À un moment, t'as Tonali qui est sur le banc, qui me semble et il serait quand même temps de le lancer. T'as des joueurs au milieu.
Mais bien sûr, Barella, Fratesi qui était pas là, enfin qui était pas convoqué.
Et en plus, il va lui coller le brassard. Un type qui n'a jamais été un leader, qui est inexistant dans un vestiaire.
Sortons du cas Verratti juste un instant pour terminer sur l'analyse. moi je pense qu'avec Barella, Fratesi, Tonali, même un Pellegrini qui peut jouer dans un milieu à 3-1, hein, parce que là il le fait jouer beaucoup sur le côté gauche parce que Mancini a un problème sur le côté gauche quand il n'y a pas Chiesa et il avait déjà essayé Pellegrini à ce poste-là. Moi je suis pas entraîneur, hein, donc je dis pas qu'il a tort, hein, mais moi je pense que Pellegrini est pas un joueur de côté. Mais il y a du monde et il y a surtout des joueurs qui amènent beaucoup de courses, de mouvement et de dynamisme. Okay, donc je pense qu'il faut aller vers ça.
Victoire donc de l'Angleterre qui prend.
Juste un petit mot sur Etegui quand même, Nico. Je suis en train de casser ton conducteur, mais
10
juste
secondes, on en a parlé tout à l'heure. L'homme, l'Argentin, l'arrière-grand-père italien qui est appelé par Mancini, qui le sort du chapeau et qui marque ce soir.
Qui est un petit tank très mobile, très physique, un œuf qui est assez létal dans la surface et il a plein de progrès à faire. Il n'y a pas de problème. Il vient d'un championnat qui est pas aussi relevé.
Moi, je comprends pas cette décision, mais bon.
On en parlera lundi dans la drôle de dame.
Mancini, mais bon.
Lundi, tu as bouffé le temps de parole de Julien Laurence, mon cher Johan. Voilà.
Je m'en excuse, désolé.
Angleterre-Ukraine, dimanche soir. Malte-Italie également. Ce sera sur RMC, bien sûr. Tiens, le Napolitain Elmas a marqué pour la Macédoine du Nord, dans le même groupe, hein. Mon cher Johan.
Ce sera pas un bon souvenir, hein, quand ils vont s'affronter les deux.
Et l'Angleterre, qui s'affronteront bien plus tard. Merci les gars, très bonne soirée à vous.
Ciao, ciao.